présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Fernand lui dit, demande, pour quelle raison? Pour cas de comportement irrespectueux envers moi et ma famille. Cela doit suffire. Pas pour moi. Je ne partirai pas. C'est ce que nous verrons, monsieur. C'est tout dit. Benoît se lève et lui dit, notre conversation est finie, monsieur. Fernand se lève et lui dit, je ne partirai pas avant d'avoir fini un travail.
Et il sort de la pièce.
Puis, Benoît entend des coups que l'on donne dans le mur. Il se lève en vitesse et va vers la fenêtre. Et là, vous voyez Fernand penché, donner des coups dans le mur. Mon Dieu, le salaud! Heureusement qu'il fait ça, son témoin.
Vite, il sort du bureau pour aller à lui.
Arrête immédiatement ceci. Non. Il donne un grand coup de pioche. Benoît, furieux, fonce sur lui, essaie de lui arracher la pioche. Fernand tient bon. Benoît, d'un geste brusque, renverse. La pioche tombe à terre. Benoît la prend et brandit la pioche au-dessus de Fernand qui est à terre. Votre femme sait que je suis avec toi. Elle saura que c'est toi qui m'as tué. Benoît furieux lance sa pioche plus loin. Fernand continue. Elle m'aime bien. Elle vous en voudra à mort. Benoît lui crie. Cela suffit, petit salaud.
Fernand se relève.
Vous ne renvoyez plus alors.
Ne t'avise pas à toucher mon fils.
Fernand le quitte, les mains dans les poches. fort rentré chez lui, Benoît, furieux, monte à la chambre de sa fille.
Entrez.
Il entre.
Elle a son bureau à écrire. Il va vers elle.
Tu fréquentes Fernand. Je ne veux plus que tu le fréquentes.
Sylvie, surprise, lui dit : Je fréquenterai qui je voudrais. Et si je veux me marier avec lui, je le ferai. Je partirai avec lui.
Son père furieux la quitte.
Sortant du lycée, voit la voiture de Fernand. Il va vers la voiture. Fernand lui dit : Je vais parler deux minutes. Oui, entre. Une fois que Denis est assis à côté de lui, Fernand lui dit : Ton père ne veut pas que l'on se voit. Il est jaloux de notre amitié. Veux-tu que l'on continue à se voir ? Il y réfléchit. Oui, pourquoi pas ? On ne fait rien de mal ? Fernand est heureux, lui dit. Alors, ami pour la vie ? Oui, il embrasse Denis sur la joue, lui dit. Si tu veux, on peut se voir chez moi ? Oui, je veux bien. Fernand lui dit. Viens jeudi après-midi. Nous goûterons du grand amitié. D'accord. Fernand lui dit. Alors, chez moi. Tu sais où j'habite ? Oui. Je ne t'accompagne pas, parce que si ton père me voit, il va te faire une selle. Oui, tu as raison. À jeudi.
Et il sort de voiture.
Denis n'est pas content. C'est la première fois qu'il va faire des cacheteries à son père et même à une personne. Cela le met mal à l'aise. Il n'aimerait pas le faire, mais il se dit aussi qu'il doit montrer son indépendance. Malgré tout, l'amitié de Fernand lui fait faire des drôles de choses, comme ce qu'il a fait durant le week-end. Il se dit qu'il faut qu'il fasse attention pour ne pas aller trop loin, car il veut rester comme il est. Qu'être comme les autres, ce n'est pas bien, ce n'est pas aussi bien que ça. Donc, jeudi après-midi, Denis va voir Fernand chez lui.
Il sonne à la porte. Fernand lui ouvre, il est en robe de chambre.
Excuse-moi, je me reposais. Je te dérange ? Je te dérange ? J'entre ? Non, entre.
Denis entre. Voilà la porte refermée. Fernand l'embrasse sur la joue.
Tu vas bien ?
Oui.
Alors dans ma chambre, ils seront plus tranquilles.
Ils y vont.
Tiens, entre.
Le lit est défait. Fernand s'allonge et dit à Denis, « Viens, allonge-toi. » Denis le fait.
Et lui demande, « Que se passe-t-il avec mon père ?» Fernand soupire et lui dit, « Ton père doit être jaloux de moi. Tu comprends, un fils qui est toujours avec un ami. Et puis, ton père est bizarre. Il est très autoritaire. Il veut faire la pluie et le beau temps. C'est un homme de droite, quoi. Un capitaliste. Il me déteste parce que je ne suis rien. Je me demande s'il aime vraiment quelqu'un. » Denis trouve que Fernand va un peu loin. Il n'aime pas sa façon de parler de son père. Fernand tend la main et s'essaye de lui caresser le cou. Denis se dégage. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. J'aime pas lorsqu'on me touche. »
Fernand se lève. Tu veux du thé? Oui, je veux bien. Il sort de la pièce.
Demain, Elisabeth va le voir. Dans le lit. Que fais-tu avec mon fils? Rien, absolument rien. J'aime bien ce cher petit. Tu devrais plus t'inquiéter de moi. Ton mari m'a fait de ses misères. Il était dans une colère la dernière fois. Si tu l'avais vu, ne t'en fais pas. Il ne t'arrivera rien. Elle l'embrasse sur les lèvres. Chaque fois que Denis va voir Fernand, Fernand lui dit du mal de son père. Cela l'énerve car il aime beaucoup son père. En prenant le thé, il lui dit, ton père ne pense qu'à lui. Ta mère n'est pas heureuse avec lui. Il la tyrannise. Denis lui dit, c'est faux. Fernand lui dit, c'est elle qui me l'a dit. Tu sais, elle vient souvent ici chercher un peu de réconfort. Mère ne ferait jamais ça. Mon pauvre Denis, tu devrais ouvrir les yeux et voir ce qui se passe autour de toi. Denis lui dit, pourquoi est-ce que tu dis toujours du mal de mon père? Je ne suis pour rien si ton père est comme ça. Et puis, ne sommes-nous pas amis? Si l'on est amis, on peut se parler librement. Non, on doit même se parler librement. Hein? Fernand essaie de l'amadouer en lui caressant les cheveux. Denis se demande ce que c'est que cet ami qui dit du mal de son père et passe son temps à vouloir le caresser comme s'il était un petit chien. Denis se lève de table. Je dois partir. Déjà? Oui. Fernand se lève.
Et le raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Pour Pour lui dire au revoir, il veut lui donner un baiser sur la joue. Le jeune se dégage. Et il se sauve en court, descendant les escaliers en vitesse. Fernand lui crie, nous nous reverrons? Pas de réponse. Il sait que c'est fini pour lui. Denis, arrivé chez lui, court vers son père.
Il frappe à son bureau.
Entrez.
Il entre.
Le père est assis à son bureau. Denis s'approche.
Tu as quelque chose à me dire, mon petit?
Oui. J'avais envie de te dire, c'est que je t'aimais.
Que se passe-t-il?
Rien. Le père se lève et le prend dans ses bras. Ce temps, Fernand sait que c'est fini pour lui, qu'il a perdu, qu'il s'est trompé, qu'il aurait dû séduire Denis sans dire du mal de son père. Il aurait dû chercher en même temps l'amitié du père. Il a perdu la confiance des deux. Il sera mis à la porte.
Il vaut mieux que je parte de moi-même. J'irai à Paris. Lyon, c'est qu'une petite ville de province.
Une semaine plus tard, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Benoît n'a pas prévenu sa femme de la disparition de son Fernand à cause des cris. Elle a appris en allant le voir. En entrant chez elle, elle va voir sa fille dans sa chambre.
Tu sais où est allé Fernand?
Non, mère. Ne mens pas, parce que je sais que vous étiez très intime. Non, mère, je vous assure que je n'en sais rien. Et le soir, lorsque le mari entre, il va au salon.
Elle lui demande, « C'est-tu Fernand ?»«
Non, il est parti sans rien dire. Tu ne l'aurais pas tué par hasard. »«
Tu es complètement folle. »«
Moi, folle? Pas tant que ça, souviens-toi. »« Assez. » Toi aussi, tu ne sais pas, et je ne sais pas ce qui est devenu, ce monsieur. Je suis bien heureux qu'il ait disparu.
Et il la quitte.
Elisabeth dit, tu me le paieras. elle écrit une lettre anonyme dénonçant son mari d'un crime et que le cadavre se trouve dans le mur de son usine. Une semaine plus tard, un après-midi, Benoît est dans le bureau de son entreprise. Téléphone a sonné et a décroché.
Allô ?
Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Faites entrer.
Frappe à la porte. Entrez. Deux hommes, grands, minces, cheveux châtains, courts, habillés d'un costume gris, portent une serviette à la main. Benoît se lève et demande « Vous désirez me parler, messieurs ?» Les deux hommes s'approchent.
L'un dit « Inspecteur de police, Le Pont, et mon collègue, La Pierre. » Ils montrent leur carte. « Je vous écoute. » Le Pont lui dit « Monsieur, nous sommes venus, c'est parce que nous avons reçu une lettre vous accusant de meurtre. » «
Mais c'est ridicule, qui m'accuse ?»
La lettre est anonyme.
C'est la preuve que c'est ridicule, un plaisantin.
Dans sa lettre, la personne écrit que vous avez caché le cadavre dans le mur de la cour de votre usine. Benoît blanchit.
Mais c'est ridicule.
L'inspecteur Condit. Ridicule ou pas, monsieur, nous devons vérifier.
Est-ce à dire ?
Ben, il va falloir voir s'il y a un cadavre dans le mur.
Mais je proteste.
Le détective sort de sa serviette une lettre et la lui montre. Voici l'ordre, monsieur.
Mais c'est ridicule.
Alors, n'importe qui peut vous dire qu'il y a un cadavre n'importe où et vous démolissez. Si on dit qu'il y a un cadavre dans le mur du Louvre, hein, vous démolissez, même si c'est un plaisantin qui vous l'a dit. Monsieur, vous savez bien c'est que la France, à cause de cette guerre d'Algérie, est sur les dents. Et que des dénonciations de crimes affluent de partout et nous devons vérifier. Croyez bien que si ce n'était que de nous, Benoît se sent perdu et demande «
Qu'allez-vous faire ?»«
Nous allons démolir le mur. »« Mais je proteste. Je vais téléphoner à mon avocat. »« Comme vous voudrez, monsieur. » Benoît prend son téléphone et fait le numéro.
Allô, suis-je bien chez Maître Grèce ?
Oui, je suis Benoît Scraff. Pouvez-vous me le passer, s'il vous plaît ?
Merci.
Allô, bonjour, cher maître, je suis Benoît Scraff.
Oui, votre femme va bien ?
La mienne aussi.
Figurez-vous, c'est que j'ai un ennui.
La police a reçu une lettre anonyme disant que j'ai un cadavre dans mon mur. Et veulent le démolir.
Mais je ne veux pas.
Je dois laisser faire et après protester.
Vous me défendrez ?
Mais encore.
Mais vous en avez de bonnes, vous.
Il sera peut-être trop tard.
Je sais que je n'ai pas de cadavre dans le mur, mais on ne sait jamais. Les gens sont si méchants. Ils peuvent m'en avoir mis un juste pour m'ennuyer.
Vous me défendrez ?
Vous défendez les causes perdues ?
Merci, c'est charmant.
Donc je ne peux rien faire.
Que laisser faire ?
Bon, ben... Je vous appellerai.
Bien.
Au revoir, cher maître.
Et dit au policier, faites ce que vous avez à faire. Et se rassoit effondré. Les policiers vont dans la cour de l'usine avec des ouvriers maçons pour démolir le mur. Les ouvriers les regardent faire, le bruit a couru, bien entendu qu'il y avait un cadavre. On demande lequel ?
Le délégué syndical.
On nous le dit, ou plutôt le directeur qui a disparu.
viens avec nous. La blessure.
Le mur est démoli avec grand soin.
Mais plante-toi, idiot!
Benoît les regarde faire. Il se dit que son cadavre doit être plus qu'un squelette recouvert de ciment et qu'il a dû être momifié. Il a décidé de se donner. De toute façon, il n'y a pas eu de témoin. Et puis, son avocat est un spécialiste des causes perdues. Il défend les grands criminels, indéfendables, les violeurs, les landrus, les fous furieux. Alors, il arrivera bien à le faire acquitter. Puisqu'il arrive, il les fait acquitter eux. Alors lui, pour un petit cadavre de rien du tout, ça lui sera facile de l'attraper, de l'acquitter. De toute façon,
oh, je vais éteindre la mèche.
Tout à coup, il se demande s'il va accepter son affaire. Qu'un cadavre, c'est peu, qu'il aurait dû en tuer une vingtaine. Là, il aurait dit oui. Mais hein, surtout que lui, c'est un industriel de droite. L'avocat ne fait que des criminels de gauche, c'est-à-dire des gens qui tuent que des gens de la haute. Lui, c'est le contraire. Son affaire est mal partie. Il faut qu'il trouve un avocat de droite qui soit contre la peine de mort. Mais là, ce n'est pas facile, car ces imbéciles d'avocats de droite sont pour la justice. Un criminel doit être jugé et doit purger sa peine. Pendant qu'il pense à tout cela, le mur se démolit. Petit à petit, on ne sait jamais, les os peuvent être dispersés dans ou broyés et mélangés au béton. Les ouvriers regardent tout ça en se demandant quand est-ce qu'ils vont voir le cadavre.
Mais planque-toi, idiot!
Frappé à la porte.
Entrez.
Les deux policiers entrent.
Monsieur, nous n'avons rien trouvé. Nous sommes vraiment navrés. Benoît est blanc. Détective lui dit : ferons reconstruire le mur. J'y compte bien. Les deux policiers le quittent et vont dans la cour donner des ordres aux maçons. Benoît reste assommé et ne comprend rien. Les ouvriers sont déçus. Pas de cadavre. Leur patron n'aura pas sa photo dans le détective. Benoît reste assommé, ne comprend rien.
Où est le cadavre? Où est-il?
Parce que j'avais bien un cadavre ici.
Qui me l'a pris? Mon Dieu! Et si on m'avait pris le cadavre pour me faire chanter?
C'est lui qui me l'a pris, a prévenu la police, c'est pour me démontrer qu'il l'avait pris.
Mais qui donc a pris le cadavre? Où est-il? Est-ce ma femme? Le directeur? Non, non, non. Je ne peux pas être lui. Parce que le temps qu'il était là, le mur était intact.
Mais le mur a toujours été, est toujours resté intact, depuis que j'ai mis le cadavre.
Alors,
il a beau chercher, il ne se souvient pas quand le cadavre aurait pu être enlevé.
C'est moi-même qui l'ai mis dans le mur, et le mur n'a pas été touché.
écrit un scénario pour John. Il l'a invité chez lui un soir pour le lui lire. Ils sont assis tous deux au salon.
Tu veux boire quelque chose ?
Oui, un petit cognac. Il la sert.
Voilà l'histoire que je t'ai écrite, elle lui dit.
Encore une chose sulfureuse ?
Tu verras par toi-même, je t'écoute. C'est l'histoire d'une femme qui vit seule avec son fils. Le fils devient pour elle l'ami, le confident. Leur intimité est de plus en plus grande. Ils vivent dans un deux pièces. La mère couche dans le séjour, ce qui fait qu'ils sont toujours ensemble. Elle ne se rend pas compte que son fils grandit et que cette proximité peut être gênante. Les voisins en parlent et se demandent comment il peut vivre ainsi. Un soir, le fils est troublé par un film qu'ils ont vu ensemble à la télévision. Puis, il s'est allongé sur le divan et s'est endormi. Sa mère se penche pour l'embrasser. Il sent son odeur, déjà excité par le film. L'odeur l'enivre et plaque sa mère contre lui. La mère a des difficultés à se dégager, à s'échapper de son emprise, parce qu'elle est en manque elle aussi. Pourtant, elle pourrait le faire, puisqu'il est entre le sommeil et la veille. Finalement, elle se laisse aller. Leur union se fait dans une fougue très grande, car cela fait des années qu'ils en avaient besoin. Besoin de sexe. La proximité a voulu que ce soit l'un et l'autre. Une fois que cette fougue est apaisée, la mère se sent gênée. Elle ne sait que faire. Lui n'a pas été gêné pour ça, mais n'ose pas en parler. La vie reprend. Elle n'ose plus le toucher et l'embrasser. C'est lui qui le fait ou lui fait comprendre par des mimiques que ce n'est rien, qu'il ne s'est rien passé de terrible et que tout est normal. Les jours passent ainsi. John dit, encore une histoire qui sent le souffle. J'étais cataloguée violeuse de garçon, maintenant incestueuse. Nicolas lui dit, tu es si belle que tu peux être autre chose qu'une femme fatale. Elle lui dit, à part pour toi, qu'est-ce que tu en sais? Elle lui dit, continue donc ton histoire. Et Nicolas reprend son histoire. Les jours passent, et un soir le garçon va rejoindre sa mère dans son lit. Elle se laisse faire. On s'habitue à cette vie comme ça, jusqu'au jour où le fils fait la connaissance d'une jeune fille nouvellement arrivée à son école. Il en tombe amoureux et oublie ce qui s'est passé avec sa mère. Il va même lui parler de son nouvel amour. Par contre, la mère, malgré elle, déprime, se sent triste, délaissée. L'amour de son fils lui manque, leur rapport aussi. Elle essaye de se raisonner, mais non, son fils lui manque. Elle cherche à l'embrasser, le caresser, mais lui se dérobe. Malgré lui, son amour le rend égoïste et aveugle. Il ne voit pas qu'elle souffre, qu'il est trop dans son nouvel amour. Il allait souvent le soir pour rejoindre la jeune fille. La mère passe la soirée à l'attendre. Une ou deux fois, elle le suit. Elle le voit avec sa copine, la trouve très quelconque et même bête. Elle se dit qu'elle s'amuse de lui et qu'il est aveuglé par son amour. Elle essaye de lui faire comprendre que cette fille est une pas grand-chose. Il l'envoie promener. Une nuit, elle est prise de vertige et va dans la chambre de son fils. Elle essaye de coucher avec lui, s'allonge, le caresse et cherche. Mais son fils se réveille d'un bond et lui dit « Ça ne va pas ?» Il a oublié ce qu'ils ont fait, ça, parce que pour lui, ça ne comptait pas. Honteuse, elle sort du lit, retourne au salon, s'habille et quitte l'appartement. Dehors, dans la nuit, elle marche désespérée. Elle est suivie et se donne à un inconnu dans une allée. Elle n'a vu ni son visage, ni si elle était jeune, ni si elle était beau. Après, il lui a donné un billet et l'a laissé. Elle se range un peu et quitte l'allée, les cheveux défaits, la démarche hésitante.
Elle s'enfonce dans la nuit. Ses pas l'ont menée sur les quais. Elle descend. Elle se jette dans une eau glacée et noire. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses ? Jean lui répond. On va me prendre pour une femme indécente et incestueuse. Nicolas lui dit. Toutes les femmes le sont. Elles peuvent assouvir au grand jour par l'amour maternel qui couvre le tout. C'est pas comme nous les hommes. Elle se sert un verre. Elle lui dit, oui peut-être, mais vous avez aussi chez vous des homos, des pédés. Elle lui dit, oui, mais deux hommes qui s'embrassent en public, ça fait scandale, tandis que deux femmes, non. Elle lui répond, que veux-tu ? Vous avez la politique, les affaires, alors laissez-nous notre petite liberté, notre petite liberté. Alors, tu prends le rôle ? Elle soupire et lui dit, oui, je vais assouvir encore une fois tes fantasmes. Guillaume est chez Nicolas, ils sont aussi au salon sur le canapé. Nicolas lui dit, j'ai fini un scénario. Ah, et je joue quel rôle? Malheureusement aucun, mais la prochaine fois je te promets. Et puis, tu as le premier rôle dans ma vie privée. Et il l'embrasse sur les bras, sur les lèvres, et ils font l'amour. Nicolas va à Lyon voir son frère Denis, va le retrouver à la sortie de son lycée. Denis est surpris de le voir. Salut, tu es de retour ? Oui, j'ai proposé quelque chose. Ils s'embrassent et Nicolas va le mener dans un café salon de thé. Il s'assoit à une table. Tu veux prendre une glace ? Oui, je veux bien. Il parle la serveuse et Nicolas commande. Deux glaces. Tu l'avais à quoi ? À la pistache. Alors deux à la pistache. Une fois que la serveuse s'est éloignée, Nicolas lui dit. Voilà, je suis tout exprès pour toi. Parce que j'aimerais savoir ce que tu fais pendant les vacances. Les vacances de Pâques. Rien de spécial. Tiens. J'ai fini un scénario pour un film. Alors, ça me ferait plaisir si tu pouvais jouer dedans. Denis fait la grimace et lui dit. Faire le comédien, cela ne m'intéresse pas. Il serre les glaces. Voilà lui dit. Cela te permettra d'être avec moi et de voir Paris, de te faire de l'argent. Je ne sais pas. Fais-moi lire le scénario. Après, je te dirai. Bien. mangé leur glace, ils ont quitté le café et sont allés chez les parents. Nicolas retrouve sa mère au salon. Je suis surprise de te revoir. C'est-à-dire que j'avais affaire à Lyon. Nicolas a donné le scénario à son frère, qui l'a lu. Et va dans la chambre de son frère, lui donner sa réponse. Je viens te rendre ton scénario.
Merci.
Alors, qu'est-ce que tu en penses?
Tony hausse ses épaules.
Ouf, ce sera un bon film, je crois. J'accepte de jouer ça à cause de l'argent, remarque. Parce que j'aimerais, c'est pouvoir partir en Amérique.
Bien. Tu veux...
Tu verras, ça te plaira,
Denis lui dit.
Il va falloir en parler à nos parents.
Oui, bien sûr.
Au petit déjeuner, Nicolas en parle à sa mère. Elle lui dit,
« Je veux lire le scénario. »
Son père lui dit,
« Il ne doit pas perdre du temps à cause de ses études. Tu as bien compris. »
Nicolas a donné le scénario à sa mère, qu'il a lu dans sa chambre. Une fois qu'elle est finie, elle va voir Nicolas qui est dans sa chambre.
Entrez.
Elle est entrée. Elle est assise à son bureau. Elle va vers lui.
Et lui tend son cahier. Tu l'as lu?
Oui.
Et alors?
Tu devrais avoir honte de faire jouer ton frère dans une histoire comme celle-là.
Nicolas lui dit, pour la rassurer,
mais maman, mon histoire est moins des scandaleuses que le diable au corps ou bien d'autres.
Elle réfléchit, lui dit,
bon, je te fais confiance, mais attention aux scènes. Enfin, remarque, la femme, à la fin, enfin, cela donne une fin morale à cette histoire.
Pour les vacances de Pâques, Denis part pour Paris retrouver son frère.
Là, il fait la connaissance de Jean et de Guillaume. Il vit avec son frère, mais Guillaume est toujours là. Il ne comprend pas pourquoi. Il pense au début qu'ils ont des rapports de travail et d'amitié. Et petit à petit, à cause de leurs gestes, paroles, caresses, mains sur la cuisse, le cou, les cheveux, mots tendres, cela le surprend. Au début, il pensait à une tendre amitié, mais là, c'est trop. Il finit par comprendre. Son frère couche avec un homme, un jeune homme, et Jeanne. Elle va de l'un à l'autre avec légèreté, un baiser, une caresse, une gentillesse. Denis se sent étranger au milieu d'eux. Il ne comprend pas. Il ne juge pas. Il se demande ce qu'il a bien fait de venir chez son frère ou chez eux. Il ne sait plus. Mais cache à tous ce qu'il a compris. Pour ne pas être gêné, elle est gênée. Et le film ? Eh bien, il se prépare. La recherche de l'argent n'a pas été facile à cause d'un sujet pareil. Alors, en attendant, l'on répète certaines scènes. Lorsque Guillaume est seul avec Denis, il le drague. Il lui dit qu'il est beau garçon. Il passe la main sur les cheveux. Et même lui a donné un baiser sur les joues. En le prenant par la taille. Denis trouve qu'il va un peu fort. Il se dégage et lui dit
« Je n'aime pas cette façon de faire. » Guillaume lui dit « D'autres ont déjà essayé ?»«
Non, je n'en ai pas envie. » Guillaume lui répond
« Nous avons tous un penchant comme ça. Et tout le monde, au moins une fois, a une aventure de ce genre. Cela commence toujours. »
Par une amitié un peu forte et ça va un peu plus loin, Denis lui dit.
Non, pas moi en tout cas.
Guillaume s'approche un peu et lui dit.
Pourquoi ? Je ne te plais pas ? Je suis laid ?
Denis recule et lui dit.
Je ne dis pas ça, mais tu n'es pas mon type.
C'est esthétique et physique. Et puis me faire toucher comme une femme, non.
Si tu veux, c'est toi qui me toucheras, Denis lui répond.
Non plus. Je n'aime pas la peau chaude et les poils.
Je n'ai pas plus qu'une femme. Tu veux voir ?
Non, merci.
Pourquoi ?
Tu as peur que ça aille plus loin ?
Non, parce que je serais gêné de te voir. Une gêne qui n'a rien de sexuel.
Disons que je serais gêné à ta place.
Guillaume essaie de donner un baiser à Denis qui se retire.
Guillaume essaie de l'attraper.
Mimi, Mimi.
Denis se dégage et court à travers la pièce. Guillaume lui court après. Lui dit, viens mon petit fan, viens mon petit fan.
Denis agacé lui crie, si tu me laisses pas tranquille, je laisserai tomber le film. Tant pis pour le film.
Et quitte la pièce.
Laissant penaud Guillaume. Le lendemain, une fois que Nicolas est sorti, Guillaume et Denis finissent leur petit déjeuner.
Guillaume lui dit, je m'excuse pour hier, je voulais m'amuser, c'est de mauvais goût, pardonne-moi.
Je pardonne, mais n'en recommence plus.
Et il se lève et sort la salle à manger.
La soirée, les deux frères sont seuls. Guillaume est allé voir un ami à l'hôpital. Ils sont tous deux assis au salon. Denis dit à son frère,
« Je ne comprends pas ta façon de vivre. »
Nicolas lui dit,
« On vit comme on peut, ce n'est pas nous qui choisissons. Nous sommes poussés malgré nous par les... circonstances, par les autres, par nos besoins qui des fois nous dépassent. C'est pour cela qu'il faut éviter de trop juger les autres. De toute façon, on ne fait pas mieux qu'eux. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est bon et gentil. Il n'y a que ceux qui vivent en nuisant aux autres qui sont à rejeter.
Radio Cani vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont sautait la 32e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.